Une dernière fois, le général Tomoyuki Yamashita leva sa coupe face aux 175 hommes réunis dans la faible lumière de la salle souterraine. Tous des ingénieurs militaires, triés sur le volet. Ils avaient accompli leur tâche à la perfection, si bien et si vite qu'il leur offrait une fête. Riz noir frit, œufs durs, patates douces rôties, bœuf séché, le tout copieusement arrosé de saké. Cela faisait 2 heures qu'ils entonnaient des chants patriotiques et hurlaient « Banzai, longue vie », à en perdre la voix. Un moment précieux arraché à l'âpreté de la guerre. 8 mois plus tôt, en octobre 1944, Yamashita avait été envoyé dans les îles pour stopper l'avancée fulgurante des troupes américaines. Il avait auparavant commandé l'armée impériale japonaise lors de l'invasion de la Malaisie et de la bataille de Singapour. 2 victoires retentissantes. Les mots de Churchill sur la chute de Singapour le remplissaient de fierté. La pire catastrophe de toute l'histoire militaire britannique. Mais ici, aux Philippines, les choses allaient de mal en pis. Yamashita ne pouvait plus que retarder l'issue inéluctable. La guerre était perdue. Le général MacArthur de retour aux Philippines, le Japon isolé. Et lui, piégé dans les montagnes au nord de Manille, avec trop peu d'armes et de vivres, tandis que les Américains se rapprochaient à une vitesse inquiétante. Depuis quelques mois, sa vie ressemblait moins à celle d'un chef militaire qu'à celle d'un mineur ou d'un banquier. Il prenait des dépôts, bâtissait des chambres fortes et sécurisait les alentours en prévision des retraits à venir. « À vous !» dit-il aux ingénieurs, sa coupe de métal levée très haut. « À votre travail remarquable. Banzai !» Ils firent chorus. Éclairée par des ampoules électriques, la salle souterraine où ils se trouvaient, la plus grande de toutes celles qu'ils avaient construites, mesurait bien 400 mètres carrés. Contre les murs, des caisses de bronze rectangulaires s'entassaient par piles de 8 remplies de lingots d'or. Un poinçon indiquait la pureté et le poids de chaque lingot, environ 75 kilos. Au total, presque 37 millions de kilos d'or. Une fortune colossale. Et les 174 autres chambres creusées abritaient des trésors similaires. Les fruits du pillage d'autres pays d'Asie, à commencer par la Chine en 1937, puis la Corée, la Thaïlande, la Birmanie, l'Indochine française, le Cambodge, la Malaisie, Hong Kong, le Timor, l'Indonésie et la Papouasie. Patrimoines nationaux, banques, sanctuaires religieux, propriétés privées, musées, usines, maisons, galeries. Les Japonais n'avaient rien négligé, dérobant tout ce qu'ils pouvaient. Un larcin incommensurable de richesses que leurs propriétaires successifs avaient mis des millénaires à accumuler. Une bonne partie de ce butin était déjà arrivée au Japon. Le reste devait voyager par la mer, mais le blocus sous-marin des Américains empêchait de poursuivre cette grande redistribution. Impossible, désormais, de transporter quoi que ce soit par bateau, surtout pas quelque chose d'aussi lourd et volumineux que l'or. Il avait fallu trouver une autre solution. Tout cacher aux Philippines, dans les montagnes de l'île de Luzon, et revenir chercher le trésor une fois la guerre finie. L'idée émanait des plus hautes sphères, de l'empereur Hirohito lui-même. Des princes plus ou moins importants de la famille impériale avaient mené les équipes de pillards à travers les territoires conquis sous la houlette du propre frère de l'empereur, le charmant et cultivé prince Chichibu, lequel avait orchestré les vols et la mise en lieu sûr du butin et donné son nom à l'opération, Kin no Yuri, Lys d'or, d'après un poème de l'empereur. « À vous, » dit le prince Chichibu, « à chacun d'entre vous. L'empereur vous remercie pour votre dévouement et vous donne sa bénédiction. » Les ingénieurs levèrent leur coupe en retour et souhaitèrent une longue et heureuse vie à l'empereur. Beaucoup avaient les yeux embués par l'émotion. Ils se trouvaient pour la première fois en présence d'un membre de la famille impériale à laquelle tous les Japonais, Yamashita compris, vouait un véritable culte. L'empereur, chef politique, militaire et religieux, était considéré comme un dieu vivant. Chichibu se pencha vers Yamashita et murmura « Tout est prêt ?» Le général acquiesça. Quelque temps plus tôt, le prince Chichibu avait quitté Singapour, établi son centre de commandement à Manille et fait transporter dans les îles toutes les richesses pillées qui se trouvaient encore sur le continent. Des milliers de travailleurs réduits en esclavage et de prisonniers de guerre avaient passé plusieurs mois à creuser des tunnels et à couler du béton dans des grottes pour les consolider. Chaque cache devait pouvoir résister aux tremblements de terre, aux bombardements, aux inondations et surtout au passage du temps. Les réserves souterraines avaient été construites sur le modèle de bunkers militaires. Le prince s'était déplacé en personne pour inspecter chacune d'elles, comme ce soir-là. Sa présence n'avait donc rien de surprenant. Leur tâche accomplie, les hommes festoyaient dans la dernière des 175 chambres fortes achevées 3 jours auparavant. On avait rangé les plans, les matériaux, les instruments de mesure et les outils dans des caisses et tout emporté. À chaque fin de chantier, les prisonniers de guerre avaient été abattus et leurs corps abandonnés sur place, avec ceux de quelques soldats japonais dont les âmes veilleraient sur les trésors dans les années à venir. Séduisante formule, recouvrant un objectif simple, limiter le nombre de témoins. « La carte est-elle en lieu sûr ?» demanda le prince. « Elle vous attend dans votre véhicule. » Depuis que MacArthur avait atterri sur l'île de Leyte, tout s'était accéléré. Chaque jour, les 200 000 soldats ennemis gagnaient du terrain, contraignant les Japonais à se replier plus loin dans les montagnes. Un sous-marin attendait le prince Chichibu pour le ramener au Japon avec la carte, indiquant les emplacements des chambres fortes. Des balises naturelles placées à intervalles réguliers dans le paysage luxuriant servaient de repères. Des repères subtils, difficiles à distinguer, intégrés à la jungle. La carte, établie selon un code secret millénaire, le code Chako, serait transmise à l'empereur, qui la garderait jusqu'à ce que vienne le moment de récupérer le trésor. Le Japon subirait peut-être une défaite militaire, mais une défaite financière, pas question. L'idée, conserver les Philippines à l'issue des négociations de paix afin de revenir chercher l'or. Quelle quantité d'or avait-il caché ? Plus de 500 000 tonnes de métal précieux, au-delà des frontières de l'imagination. Pour la gloire de l'empereur. « Il est temps que nous partions », souffla-t-il au prince avant de se tourner vers les ingénieurs. « Mangez, buvez autant qu'il vous plaira, vous l'avez bien mérité. Ici vous êtes cachés, au calme et en sécurité. Nous nous retrouverons demain matin pour l'évacuation. » Ceux-ci lui renvoyèrent un banzai collectif auquel il répondit, remarquant les sourires sur leurs visages. Puis, il sortit de la chambre forte avec le prince. Un ascenseur rudimentaire les ramena à la surface du sol, 70 mètres plus haut. En montant, il avisa la dynamite placée dans le conduit au cours des festivités. L'autre accès, un tunnel, était piégé aussi. Les charges suffisamment espacé pour le condamner sans le détruire complètement. Yamashita et le prince sortirent dans la chaude nuit tropicale. 3 experts en explosifs les attendaient. Une fois la cage de l'ascenseur et le tunnel pulvérisés, les derniers êtres humains présents, les 175 ingénieurs qui connaissaient les emplacements précis des cachettes, mourraient. D'asphyxie pour la plupart, mais certains accompliraient à coup sûr le suicide rituel en l'honneur de l'empereur. Il hocha la tête en regardant l'un des soldats. Les explosifs furent déclenchés. Un bruit de tonnerre retentit, le sol trembla. Les charges sautaient selon l'ordre prévu, abattant chacune une partie de l'excavation. La dernière détruisit l'entrée principale dans une avalanche de terre et de roches. Avant l'aube, toutes les traces seraient aplanies et recouvertes, et en quelques semaines, la jungle reprendrait ses droits, achevant le travail de camouflage.